philosophie première, l'introduction de la substance, par la Père Marie-Dominique Philippe, le 10 octobre 2002 à Saint-Germain.
Petite question, et puis il y en a d'autres. C'est très bien pour vous éveiller. Mon père, on a souvent tendance à confondre expérience et expérimentation et faire de l'expérimentation notre expérience. Pouvez-vous nous aider à distinguer? Oui, ah oui, c'est... On voit l'homme à travers la science. Et on croit que la science est plus que l'homme. C'est ça le drame d'aujourd'hui. Je me souviens. Ça, c'est une expérience. C'est pas une expérimentation. C'est une expérience. Je connaissais et je connais celui qui a lancé le point de vue de la recherche sur la vie pour tous les savants. Et il avait rencontré, tous les ans, il se rencontre pour voir discuter sur certains problèmes. Et là, il y avait le point de vue, c'était à Rome. Alors lui m'avait dit, à Rome, il faut voir le Saint-Père. C'était pas le Saint-Père actuel, c'était le précédent. Pas le précédent, puisque le précédent a eu qu'un mois, mais celui juste avant. Alors il m'avait demandé comment atteindre le Saint-Père, comment pouvoir avoir une audience. Alors il n'avait pas parlé. Alors quand il l'a dit à tous ses savants, les grands savants du monde, les plus grands, tous ont dit, qu'est-ce que ça signifie? Rome, c'est un musée. Le pape, on ne sait pas ce que c'est. Nous ne sommes pas catholiques. Donc il n'y avait pas un seul catholique dans ces plus grands savants du monde. Et après, dans tous les domaines. Alors, quand Marois a exprimé qu'il avait cette audience un jour, le président de l'Académie italienne a tiré son carnet à je ne peux pas venir. Alors il s'attendait à ce que chacun dise ça, une excuse. Tous ont dit, on ne voit pas très bien l'intérêt. Nous sommes ici pour la science, les impairs tout à fait en dehors, mais par affection pour vous. Alors vous voyez, j'ai vu ce que c'était, hein, l'amitié. Par affection pour vous, on ira. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Alors, le jour donné, c'était, je sais pas, 2 jours après qu'il était là, il y avait, ces grands savants avaient leur épouse. Alors, il y en a une jeune épouse qui était dans un petit costume assez avancé. Alors, le père trouvait que voir le pape comme ça, quand même, non, ça n'allait pas. Alors il s'est approché. Marois s'est approché d'elle et dit, madame, vous aviez une tenue qui était si bien quand vous êtes arrivée. Vous pourriez peut-être, vous avez une audience au Saint-Père, il y a quand même certains styles. Si vous pouvez remettre votre habit, ce que vous aviez quand vous êtes arrivée, ce serait mieux. Alors, elle a obéi. Alors, elle est partie changer. Son mari est arrivé auprès de Marmot. Il dit, ah, première fois dans sa vie qu'elle obéit. Je commence à croire que l'audience au Saint-Père a un pouvoir très particulier. Le petit côté très, très amusant à côté. Parce que j'ai vu la photo, ça a été pris en photo, forcément. Elle est revenue. Et tous les autres étaient là, point fixe, en costume convenable. Le Saint-Père a eu tout de suite en entrant un geste d'amabilité pour un de ses grands savants qui était un peu paralysé, qui avait de la peine à se lever quand il est arrivé. Il a mis sa main sur son épaule, ne bougeait pas. Alors, ils ont été conquis par ce geste. Et le Saint-Père leur a demandé, vous êtes tous des savants, mais vous faites la science pourquoi? Est-ce que vous la faites pour soulager l'homme comme médecin? Est-ce que vous cherchez les maladies pour mieux savoir et soulager? Ou bien c'est pour votre gloire? Il s'avère à terminer très bien la science, mais elle est au service de l'homme. Et non pas pour la gloire des hommes. Premier point. C'était bien. Deuxième point, la science est bonne quand elle est au service de l'homme. Parce que l'homme est plus que la science. L'homme ne peut pas considérer la science comme sa fin. Puis le troisième point, l'Église a toujours eu beaucoup de respect pour la science. Et la vraie science. Mais la science n'est pas tout. La science est particulière. Alors, ils étaient tout à fait conquis par le Saint-Père, qui s'intéresse. Parce que chacun s'est présenté au pape en présentant ses spécialités. Et le pape les a interrogés sur sa spécialité. Alors, ils ont été très conquis. Et si le Saint-Père n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que c'est le seul homme qui nous a dit que la science est au service de l'homme. Et que l'homme est plus que la science. On ne nous a jamais dit ça. Alors ça, ça les vit tous étonnés et frappés. Et on doit nous le dire, parce que nous sommes tous des savants, et nous savons que l'homme est plus que la science. Mais on ne le dit pas. Alors, je viens à ce petit sujet. L'expérience, c'est directement l'intelligence et nos sens. Pas d'instrument. Vous avez une expérience tous les jours, dès que vous vous levez, votre vie est pleine d'expériences, mais vous les oubliez, ne faites pas attention. La connaissance que vous avez de vos frères, c'est une expérience, et ça doit aller jusqu'à l'amitié. L'expérimentation, ah, c'est autre chose. On a un but, on cherche quelque chose, et en fonction de ça, on doit noter ce qu'on voit avec tel instrument. Parce que on voit beaucoup de choses qu'à l'œil nu, on ne voit pas, et qu'on les voit sous un jour particulier. Or, qu'est-ce qui grossit ces instruments? Ce sont les sensibles communs et pas les sensibles propres. Les sensibles propres ne grossissent pas, c'est les sensibles communs. Donc, on a une vision du réel qui n'est plus réelle, qui est la vision qu'on a grâce à tel instrument. Alors, vous allez me dire, mais l'instrument me montre des choses que je vois. Oui, mais elle vous les montre d'un autre ordre que l'expérience directe. Et c'est cet ordre nouveau auquel on ne fait pas assez d'attention. Le monde n'est pas le monde du savant. Le monde est le monde au service de l'homme. Même si on n'est pas chrétien, si on est chrétien, on le sait. Le livre de la sagesse le dit ouvertement. Et nous savons que tout est ordonné à l'homme. Et donc à l'homme, non pas au savant. L'univers n'est pas ordonné au savant. C'est le savant qui se sert de l'univers. Mais l'univers est plus que le savant. Et l'homme est plus que le savant. Parce qu'il a une connaissance directe des choses, par le toucher et par la vision. Mais c'est un problème là, de critique évidemment, qui montre que la science, ben oui, on connaît certaines choses par la science, mais alors on doit le dire qu'on les connaît grâce à ce microscope. Il y a tout un monde nouveau qu'on voit par le microscope. Ce n'est pas le monde de l'homme directement, c'est le monde du savant. Vous voyez, on fait la critique de la philosophie, et la philosophie doit faire la critique de la science. Et plus on avance, le monde scientifique est en dépendance des mathématiques. Et les mathématiques ne touchent pas ce qui est. L'être mathématique est un être construit par l'homme. Qui a un fondement réel, mais il est construit par l'homme. C'est pour ça que l'homme aime tellement les mathématiques. Les mathématiques ne me conduisent pas à Dieu. Tandis que tout être qui existe me conduit à Dieu. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses-là. On fait de la philosophie pour comprendre cela. Si on ne fait pas de philosophie, on ne comprend pas. On est des moutons qui suivent. Ah, le savant dit ça. Et vous voyez, dans une revue scientifique, on disait, ah oui, puisque les recherches scientifiques actuellement montrent qu'il y a eu un moment en Égypte un déluge extraordinaire. Alors on parle des plaies d'Égypte, on dit, on croyait que c'était inventé, le savant. Il dit, ah, maintenant, on doit dire qu'il y a quelque chose. Par la science, on dit que les plaies d'Égypte sont vraies. Pas par la foi. C'est intéressant de voir que certaines choses qu'on affirmait au point de vue de la foi, qui semblaient un conte, non, on s'aperçoit qu'il y a des traces scientifiques aujourd'hui et qu'il faut dire qu'il y a eu un bouleversement. Je crois que c'est très important de savoir ce que le savant atteint encore de la réalité. Il atteint quelque chose. C'est pas du tout, il n'atteint pas rien du tout. Mais c'est la question des sensibles propres et des sensibles communs que la philosophie, qu'Aristote a découvert, hein. Et que nous devons découvrir. Les sensibles propres, je les atteins directement. Le chaud, le froid. sensibles communs atteignent l'équilibre qui en existe entre les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles communs, c'est la quantité. C'est tout le domaine de la quantité. La quantité n'est pas la qualité. Les sensibles propres, c'est la qualité que je saisis par mes sens. Mais la science, le microscope, augmente les sensibles communs. Et donc, le rapport sensible propre et sensible commun n'est pas réel. Il est selon l'expérimentation. Et je n'atteins de réel qu'en notant ces telles expérimentations. C'est très important, ça. Là, la critique vaut. Et elle doit exister. Tandis que le positivisme d'Auguste Comte n'est vrai que ce que la science saisit. Donc, tous les sensibles propres sont évacués. Et vous vivez d'un monde mathématique, comme la quantité. Et le positivisme d'Auguste Comte s'est introduit jusque dans la théologie. Ça, j'en suis sûr. Et je crois que notre rôle, c'est de dépister ce que le positivisme est entré et ce qu'il a falsifié. Il est bon, de temps en temps, de relire Auguste Comte. Pour Auguste Comte, la finalité, c'est bon pour les enfants. La finalité n'est pas scientifique. Et ça a gagné la philosophie. La finalité, elle est métaphorique. Alors, il faut quand même avoir un esprit critique pour saisir la différence entre les conclusions scientifiques qu'on acquiert grâce à telle expérimentation, donc en se servant de tel instrument qui a grossi le réel de telle manière qu'on a saisi des tas de choses qu'on ne saisit pas à l'œil normal. C'est très bien de les saisir. Mais attention, vous les saisissez d'une manière qui n'est pas le réel. Puisque les sensibles propres, on ne les grossit pas. Et les sensibles communs, la quantité, on grossit. Et prenez comme exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous avez un mouchoir. Et vous avez une tache de sang sur ce mouchoir. Ça se voit. Vous allez agrandir ça, le mouchoir, l'étendre sur une bande de 10 mètres, ce petit mouchoir. Vous mettez la même tache sur la bande de 10 mètres. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, c'est rien. Sur le mouchoir, tiens, d'où ça vient ? Alors vous saisissez là les rapports entre le sensible propre et les sensibles communs. Le sensible propre, c'est le rouge du sang que vous avez saisi. Et c'est pour ça que les bons médecins, les très bons médecins, font leur expérience directement, la main. Parce que rien ne révèle autant que cela. J'avais remarqué en Italie, parce qu'en italien, on a des mécanos qui sont très bons. Hein. L'Italie a cette espèce. J'ai vu une fois, j'étais en auto, il y avait une panne. Ça ne marchait pas, il y avait que je sais pas. s'est arrêté. Un petit bonhomme qui a dit, on avait arrêté le moteur. Puis on lui disait, il dit, ah, faites marcher le moteur. Puis il a écouté. Ah oui, il doit y avoir ça qui ne va pas. Par le son, il a découvert ce qui ne marchait pas au point de vue mécanique. J'ai trouvé ça très, très beau. Hein. L'expérience du son, tout de suite, dans le ronronnement du moteur. Ah, ça ne va pas. Vous voyez, c'est être, de comprendre ce que sont, ce que c'est que l'expérience, c'est les sensibles propres. L'expérimentation, c'est les sensibles communs. Que vous grandissez, enfin, alors c'est très bien. C'est très bien de faire ça, je n'ai rien contre la science. Elle apprend beaucoup de choses. Mais attention, le réel que le philosophe respecte, et il revient toujours là-dessus, c'est autre chose. Alors, vous avez dit qu'on ne doit pas juger une personne par son passé. Attention, juger un jugement actuel hein, sur la personne actuelle, qu'on se serve du passé pour voir certaines choses, c'est évident. Le passé a existé, mais il a existé, et depuis, le vivant a pu changer. On a pu se convertir. Mais je vous demande, comment connaître une personne très profondément sans connaître son passé? Parce que cette personne vit actuellement. Donc profondément, c'est ce qui est actuel. C'est plus profond que le passé. Le passé donne une lumière pour mieux comprendre le présent. Moi, c'est le présent qui fait connaître le passé. La lumière que j'ai de mon ami est plus forte que tout ce qu'on peut me dire. C'est tellement important, ça. Et notre monde est comme ça. Ça, c'est exactement notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, ce monde d'aujourd'hui est un monde de vieillards, parce qu'ils jugent sur le passé. Vous jugez un homme d'après ce qu'il peut faire actuellement, pas ce qu'il faisait il y a 10 ans. Il a vieilli. Et donc, si je veux faire exactement ce qu'il faisait il y a 10 ans, c'est dangereux. Vous jugez maintenant. Alors, maintenant, le vieillard approfondit. S'il a continué de penser, il approfondit. Mais il n'a pas le même rythme de vie. Alors, faites attention. Vous voyez, l'histoire est devenue tellement importante, mais même quand on a la réalité, on regarde l'histoire. C'est curieux, ça. Le passé donne une lumière pour mieux comprendre le présent. Oui, très bien, mais c'est le présent qui donne la lumière sur le passé. Aristote n'a-t-il pas dit que pour avoir une amitié parfaite, il fallait passer beaucoup de temps. Mais l'ami est actuel. Le passé est vu dans la présence actuelle. Ce n'est pas le passé qui juge l'ami. Vous voyez, je ne dis pas le passé, je ne dis pas l'histoire, mais je dis que l'histoire n'est jamais sagesse. C'est-à-dire le jugement ultime, dernier. La sagesse ne peut être atteinte que par la réalité actuelle. Le jugement d'existence, ceci est. Ceci est passé. Alors, je m'intéresse au passé, mais je m'intéresse au passé en raison de l'acte actuel. Si je veux avoir un jugement juste. Tandis que je ne juge pas quelqu'un actuellement à cause de son passé. Ça, c'est un jugement historique. C'est pas un jugement philosophique. C'est très très important, ça. Moi, je connais des gens qui ont fait de la prison. Et la prison est marquée sur leur livret. Interroger ces gens. On me juge toujours sur la prison que j'ai faite. Je peux dire, j'ai complètement changé. Vous pouvez demander à telle personne qui connaît, vous avez fait de la prison. Alors je dis, d'une façon évangélique, c'est pas juste. Et d'une façon philosophique, c'est pas vrai. Petit à petit, on vit dans le passé. C'est pour ça que je dis, on a une civilisation de passé. On n'a plus la vitalité suffisante pour vivre du présent. Et de juger les gens sur le présent. C'est ça l'importance de la philosophie, de la métaphysique. C'est vous montrer que la métaphysique repose non pas sur ce qui a été, mais sur ce qui est. Je fais ma philosophie de ce qui est maintenant, et non pas ma philosophie de ce qui était il y a 50 ans. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, pour être intéressante, demande que j'imagine pas mal de choses. Que je reconstruise. Alors, je réinvente. Je réinvente d'une façon astucieuse, parce que j'ai des données, mais je relis ces données avec mon imagination, parce que je n'ai pas le lien. C'est très curieux, ça. Il faut garder cet esprit philosophique pour bien comprendre la différence de ce qui est et le passé. Je reçois les novices en fonction de ceux qui sont actuellement bien heureux, et non pas en fonction de leur passé. Leur passé influe, mais ce n'est pas le passé qui donne la détermination. Autrement, on a une civilisation de vieux. Et on doit avoir une civilisation d'avenir. Et pour avoir l'avenir, il faut regarder ce qui est maintenant. Jugement d'existence. Et là, c'est là qu'on voit que la philosophie redresse énormément notre jugement. Parce que si vraiment on fait quelques années de philosophie et qu'on continue d'en faire, toujours le jugement d'existence sera à partir de cela que je jugerai. Je tiendrai compte, c'est évident, je tiendrai compte du passé. Mais tenir compte du passé, ce n'est pas juger en fonction du passé. Ah, vous nous avez donné un exemple de l'analogie de similitude. L'intelligence de l'homme et celle de Dieu. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'analogie de l'être ? Je suis, donc il y a un être premier à mon existence, puisque je suis et je suis limité dans mon être. que je suis limité dans mon être, puisque j'ai à côté de moi mon voisin qui existe, et qui existe autrement que moi. Il est autre dans son existence. Par le fait même, je ne suis pas tout l'existence. Et je vois qu'il y a un autre que je dois respecter, qui existe indépendamment de moi. Et même si je suis son ami, il est autre que moi. L'amitié fait découvrir de plus en plus l'altérité. L'altérité dans son existence. Il est autre que moi. Eh bien, l'altérité être limité et relatif à un autre, avant lui. Et c'est par l'être que je remonte jusqu'à l'être premier. Puisque en moi, je ne peux pas aller plus loin que mon être. Mon être, c'est quelque chose de fondamental en moi, puisque tout existe en moi. Donc mon être est limité, puisqu'il n'est pas celui de mon voisin. C'est là l'immense avantage d'avoir un voisin, oui. De vivre en vie commune. Parce qu'on ne peut pas se considérer comme Dieu. Si on vivait seul, je suis seul. J'existe seul. Non, il y a un autre qui existe. Et donc, cet autre, où je suis dépendant de lui, où je suis indépendamment de lui, si je suis indépendant de lui par rapport à mon exister, la limite de mon exister, d'où vient-elle ? Elle vient d'un autre dont je dépends radicalement dans mon être. Il y a donc un être premier. Si vous saisissez l'être, vous n'avez pas quand même le courage de dire « j'existe, je suis seul à exister ». Tous les autres sont des bâtards dans l'ordre de l'être. Je suis seul à exister. Non. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Et il ne dit pas que les autres êtres sont bâtards puisqu'ils viennent de lui. Alors ils sont. Ils existent vraiment. Oui. Le jugement d'existence, c'est quelque chose de capital. Au point de vue philosophique, c'est ceci est. Alors, voyez, le sujet et l'attribut, je prends l'analyse de ce jugement le plus simple qui soit. Vous ne pourrez pas trouver un jugement plus simple que ceci est. C'est le jugement le plus fondamental, le plus simple. C'est donc là où j'ai l'expérience la plus fondamentale. Ceci est. Ceci est. C'est pour ça que je le respecte. Alors, comme il y a une signature, ça vaut beaucoup plus. Ça se réfère à celui qui a écrit. C'est vrai, ce bout de papier avec une écriture, il est signé. Donc, je vais vers celui qui a écrit ça. Mais celui qui a écrit ça, il est capable d'écrire ça C'est déjà pas mal. Il est capable d'écrire ça. Il est capable de beaucoup d'autres choses. Mais son être, est-ce qu'il est capable de dire mon être, c'est mon avoir? Tiens, il touche tout de suite à une distinction fondamentale. Mon avoir et mon être. Mon avoir, je peux l'augmenter. Mon être, non. Mon être est comme ça. Je respecte beaucoup l'être de mon voisin et je l'aime mieux que mon être à moi, dans mon ami. C'est ce qui se passe. J'aime mieux l'être de mon ami que mon ami, que mon être. Alors, c'est curieux ça. Ça montre bien que votre être n'est pas de vous. Si votre être était de vous, et que l'être de votre ami, vous le préférez, vous seriez tout de suite comme votre ami. Je changerais mon être, et il serait l'être de mon ami. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez changer l'avoir. Votre avoir, c'est votre tunique, c'est votre habit, c'est vos souliers. Votre avoir, c'est votre coiffure, c'est votre avoir, c'est votre paire de lunettes, c'est votre avoir. L'avoir, ça s'augmente. Je peux avoir une fortune. C'est pas mon être. Quand je dis je suis, ceci est. Il faut entrer dans ce jugement d'existence. Il faut voir ce jugement d'existence en quelque chose de tout à fait particulier. Quand vous voyez une araignée, avant de la tuer, vous dites « elle existe ». Elle est. Cette petite bête. Et vous l'écrasez, elle est morte. Et son être est cadavre. Tout son être est réduit au cadavre. Un peu de bouillie. Ceci est.